Bonjour à toutes et à tous. Dans les deux chroniques précédentes, j'ai parlé de la ville du quart d'heure et j'en ai parlé d'une manière qui était très critique, puisqu'en fait, je reprochais à ce qui est présenté comme un urbanisme innovant, d'abord de ne pas être innovant du tout, de reprendre une vision très passéiste et puis aussi des propositions d'urbanisme du même type qui ont déjà été tenues au cours du XXe siècle et que ça ne tient pas compte de plus de la société d'aujourd'hui et avec également des aspects très négatifs puisqu'en fait ça supposerait une sorte de séparatisme, de communautarisme, de juxtaposition de communautés qui seraient en théorie autonome, mais qui en fait serait surtout, je pense, une ségrégation forte des populations. Alors, ce que je voudrais expliquer, ce n'est pas de recréer un autre monde utopique, mais de prendre la réalité de ce qui est aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé à la dernière chronique, mais d'en voir aujourd'hui les aspects qui sont à la fois humains, sociologiques, mais bien sûr aussi économiques, législatifs, et ce qui me paraît l'essentiel, c'est aussi la démarche démocratique qui n'est pas le fait de quelques sachants. Mais qui serait l'expression de la population à travers le système démocratique, notamment le système des élections. Alors, la ville, cette ville du futur, on en a parlé récemment à Europe 1, cette semaine, avec un intervenant qui est un certain Michel Husseau, c'est une personne qui a été directeur des programmes de l'éducation nationale. Je pense qu'il n'a pas laissé un très bon souvenir pour tout le monde dans une dérive sémantique qui faisait que on appelait par exemple un ballon dans les cours d'école un référent bondissant. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais en fait, ce monsieur et directeur d'une école d'urbanisme à Lyon, et donc de ce fait est autorisé à parler de la ville de demain. Alors ce qui est très intéressant, c'est que il parle de cette ville de demain qui doit être inventée, et vous pouvez aussi vous souvenir que je soulève aussi cette critique sur la manière de concevoir les villes aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y aurait une technostructure, ou du moins un certain nombre de corporatismes qui pensent qu'ils sont les seuls autorisés à voir quel va être notre futur. Notre futur, c'est dans les villes ou dans les territoires, d'une manière générale. Alors on parle beaucoup de ceux qui vont inventer la ville de demain. Et donc ce monsieur Lussault, lui, il cite les acteurs de la ville de demain. Donc il cite les chercheurs, bien sûr, dont il est en premier, et puis les architectes, les promoteurs. Il parle du pouvoir public, je pense qu'il parle de la structure, de la technostructure, et il parle des associations. À aucun moment, il ne parle, ce qui est quand même assez étonnant dans une démocratie, il ne parle jamais des élus, et notamment pour les villes, il ne parle jamais des maires et des conseillers municipaux. Alors il faut rappeler que c'est la fonction première des élus de justement de prendre les choix et ils seront à partir de ces choix. Ils seront sanctionnés dans un système démocratique ou réélus si la population est satisfaite. Donc il y a une adéquation entre le système décisionnel, exécutif, et aussi la population qui, devant les projets, peut réagir d'une manière directe et d'une manière qui me paraît infiniment plus satisfaisante à travers des élections démocratiques que par le pouvoir des associations, même si le tissu associatif est quelque chose d'intéressant, mais enfin quand même, c'est souvent des gens qui sont des interlocuteurs autoproclamés. Donc, il est important de rappeler cela, et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est oublié, parce que on aurait donc un système qui se positionnerait en légitime, et j'avais pu en parler avant, la singularité de l'urbanisme, c'est que le mot même et l'idée même, la discipline n'existait pas, puisqu'en fait, c'était essentiellement un choix fait par les responsables élus, alors même sous les régimes qui n'étaient pas dans la démocratie dans laquelle on vit, et il y avait des décideurs qui prenaient les décisions, et de toute façon, ils étaient bien obligés d'être en phase avec la population, parce que les populations réagissent, et on a des troubles si on ne correspond pas aux populations. Donc, il ne faut pas penser aussi que seule la démocratie est la transmission des désirs des populations. Je pense qu'il y a des régimes, même autocratiques, de la royauté, avait ce souci d'avoir l'adéquation entre la population et les décisions qui étaient prises. Alors, justement, c'est d'autant plus surprenant dans la période dans laquelle nous sommes de voir que dans une démocratie, on ne parle plus de démocratie et qu'en fait, il y aurait une caste autoproclamée, le géographe, qui devient le penseur de la ville. Et comme on a le fameux Carlos Moreno et ses 1000 quarts d'heure, on ne sait pas très bien quelle est sa formation, mais en tout cas, il prend une place très importante sur les plateaux publics, sur les plateaux télévisés, pardon, et également, il devient un influenceur sur un concept qui me paraît complètement baroque et en tout cas inapplicable. C'est, on pourrait dire même, dangereux. Donc, cette démocratie, c'est quand même, justement, au niveau de la ville, l'essentiel, puisque cette démocratie fonctionne justement sur le territoire et les enjeux du territoire sont très importants, puisqu'en fait, le maire et les conseils municipaux vont décider des choix essentiels, à la fois à travers les règlements qui vont établir justement des règles communes d'urbanisation et aussi des choix qui vont être sur les voies, les transports, les alignements urbains, mais aussi, ça va être effectivement, on en parle beaucoup, les espaces verts et aussi, ce qui est aussi très important, et c'est l'emplacement des différents lieux qui vont être à la fois les lieux institutionnels, mais également les zones de bureaux, de commerce, en fait, toutes les activités qui sont nécessaires à toute ville, village, à toute société humaine. Donc on voit que ce sont des choix qui sont diversifiés et que c'est à travers ces choix que va se dessiner la forme de la ville. Alors, ce débat, me semble-t-il, ne peut pas être uniquement pris par des professionnels, parce que les professionnels, ils ont leurs intérêts professionnels. Les promoteurs ont leurs intérêts, les architectes ont leurs intérêts corporatistes, tout à fait justifiés. Et ce qui se passe souvent, c'est que l'administration a ses propres intérêts, c'est-à-dire de prendre des décisions qui vont être idéologique forcément et qui vont les prendre à la place des élus et donc à la place de la population. Alors, j'avais aussi parlé de la procédure des concours, et je vais exprimer d'une manière assez ironique et je pense assez féroce, que c'est une procédure qui avait, sous les apparences d'être le bien, avait conduit à la fois à une perte professionnelle de qualité de l'architecture et de l'urbanisme, mais en plus que ça avait enlevé cette responsabilisation qui était donnée dans cet équilibre entre les décisions d'un exécutif et à travers les élections, la possibilité pour les électeurs de faire des choix, puisqu'en fait, on se trouvait devant un jury anonyme, ou du moins qui ne va, où les décisions ne sont pas publiques, qui est fait donc dans le secret. Alors, on n'est pas en cour d'assises, on est justement sur des sujets qui devaient être débattus, et on a une sorte de fausse confidentialité pour des sujets qui devraient justement être les plus transparents possibles. Donc on a des choix, et quand ces choix sont catastrophiques, ce qui arrive hélas assez souvent, eh bien, que dit l'élu? Il dit « je n'y suis pour rien ». C'est le jury qui a choisi. Alors le jury, il est fait de professionnels, il est fait d'administratifs, il est fait de différentes personnes supposées prendre des choix à la place des populations, et tout ça dans le secret et dans le silence et sans débat public. Donc là, je pense qu'on a un problème qui est antidémocratique, puisque la transparence n'existe pas, les choix, la transparence et la responsabilité, d'une part, et aussi, il n'y a pas une ligne directrice qui permettrait justement d'annoncer et de faire un débat démocratique, en tout cas, à la fois pendant les mandats et à la fois au moment des élections. Alors, on va faire une pause musicale, puis je reprendrai ce sujet qui me paraît essentiel de la démocratie. Thank you. Nous allons reparler donc de la démocratie, de la démocratie communale, et cette démocratie, elle passe, comme je vous le disais, par les demandes des gens. Quel est le premier souci des populations? Le premier souci des populations, c'est le logement. Après, il y a les lieux de travail, les lieux de scolarisation, en fait, les lieux du commerce, leur implantation, et effectivement, ce qui constitue la ville. Mais revenons sur le logement. Alors, la demande générale depuis des décennies, c'est d'avoir des quartiers résidentiels, c'est d'avoir des logements calmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous regardez les annonces immobilières, vous n'avez jamais dans les demandes de logement ou les propositions que font les promoteurs publics ou privés, ce n'est jamais, c'est un quartier très animé avec un mélange d'activités et vos logements seront dans un même immeuble avec des artisans, etc. Ça, ce n'est jamais proposé. Qu'est-ce qu'on vous dira? On vous dira, c'est un quartier calme. Vous êtes dans un résidentiel protégé et on mettra en avant la vue, l'ensoleillement, les prolongements qui vont être des balcons, des terrasses, etc. Mais en tout cas, on ne parle jamais de mixité entre l'habitat et les lieux divers d'activité. Donc, en fait, il y a une demande résidentielle. Et de notre côté, nous avons donc les, entre guillemets, sachants qui proposent exactement l'inverse. Donc, il y aurait cette demande résidentielle qui serait quelque chose qu'il faudrait rejeter, qui serait une mauvaise influence que les gens subiraient, et donc une sorte de catéchisme du bien serait au contraire de faire un mélange avec les activités que personne ne demande. Et on sait qu'aujourd'hui, ce qui était effectivement la ville d'hier, la ville, les odeurs de Suskind, mais il y avait aussi du bruit, la ville était pestilentielle et bruyante, et que aujourd'hui le niveau d'acceptation du bruit est très très faible, et que on a en permanence des procès dans les quartiers denses ou même dans les villages, parce qu'il y aura le bruit d'un pétrin de boulanger qui va travailler la nuit, même s'il est très très faible, il y aura des procès, enfin tout est devenu de ce côté-là très sensible. C'est une réalité de la demande d'aujourd'hui, et il est inutile de rappeler ce qu'était la ville d'hier, puisqu'en fait nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ce qui est assez grave, c'est qu'il y a justement entre, disons, les demandes des gens, leur traduction économique à travers les programmes des constructeurs, qu'ils soient constructeurs sociaux ou privés, c'est à peu près les mêmes demandes, nous avons une divergence totale avec ce qui est proposé dans les plans d'urbanisme, et notamment, nous l'avons vu avec cette ville du quart d'heure, puisqu'en fait, cette ville du quart d'heure, c'est une idée uniquement de déplacement, mais en fait, ça suppose qu'on ait une proximité et donc un mélange entre les populations et les activités. Donc, on pourrait aussi regarder les choses d'une autre manière et voir que la ville ancienne avait aussi des séparations, n'était pas du tout ce mélange idéal que l'on verrait des populations, des couches sociales, mais qu'en fait c'était des ségrégations de populations entre quartiers, et entre quartiers d'activité pour le petit peuple et aussi avec des quartiers aristocratiques. On voit ça à peu près dans toutes les villes. À Toulouse, c'est flagrant puisqu'on peut le voir d'une manière très claire toujours entre le quartier de la cathédrale, du Grand Rond, du Jardin des Plantes, un quartier qui est très calme avec très peu de commerce et des hôtels particuliers, des jardins, des cours. Et même si aujourd'hui ne subsiste que les noms des rues des artisans, on n'a plus le bruit et l'odeur de ces métiers, les tourneurs, les filatiers, on n'a plus toutes ces activités, les menuisiers, les noms demeurent, mais c'est assez intéressant, c'est que même à travers les siècles, on a des quartiers qui sont plus denses, plus populaires, avec aujourd'hui, évidemment, ce ne sont plus ces métiers, mais ce sont des restaurants, des lieux certainement plus bruyants, et on a ces deux côtés de la ville qui se font face, donc entre le quartier de la cathédrale et le quartier, par exemple, des Carmes, Esquirol, jusqu'à la Garonne. Donc, tout ça pour vous dire que la lecture de la ville ancienne demanderait de sortir de ces schémas stéréotypés et de voir qu'en fait, on avait des spécialisations et en tout cas, il y avait des quartiers résidentiels. Donc, je reviens sur cette histoire de quartier résidentiel. On sait qu'aujourd'hui, la demande est aussi de maisons individuelles et que l'on a dans notre pays un grand nombre de villages et ça fait partie des caractéristiques de notre pays, justement, ce grand nombre de communes. Alors, la tendance aujourd'hui, c'est de regrouper les communes, de faire des intercommunalités et autant il est intéressant de penser que des communes mettent en commun des outils, des équipements ensemble, et c'est tout à fait bénéfique, et sur un plan de l'économie, sur le plan de la diversité, de ces accessibilités à tous, mais on peut aussi penser que cette division historique créer des unités qui sont justement existantes par l'histoire. Et le paradoxe, pour ramener à la ville du quart d'heure, c'est qu'en fait, on voudrait scinder la ville en petites communautés, et puis de notre côté, on aurait une vision de regrouper les communes ensemble. Ce qui est évidemment un peu absurde, puisque, comme je l'avais expliqué dans la première émission sur la ville du quart d'heure, cette division en paroisses, c'était justement la distance pédestre que l'on pouvait avoir pour aller à l'église qui était le lieu central et dans la mesure où la religion catholique était rythmée la vie quotidienne des gens à cette époque. Donc, il est un peu absurde d'un côté de regrouper et de l'autre de vouloir rediviser ce qui est déjà groupé. Ce qui pourrait apparaître, j'en ai esquissé cela, c'est de prendre la réalité de ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ces extensions des couronnes de villes qui sont en fait historiques, c'est-à-dire que toutes les communes de Toulouse que l'on prend, puisqu'on parle de notre ville de Toulouse, mais c'est pareil aussi. Montpellier, Bordeaux, enfin c'est toutes les villes françaises. On a donc la ville ancienne, une extension qui s'est faite au cours des derniers siècles, et puis on a toutes les villes qui sont autour et qui ont une grande partie à la fois des activités et aussi à la fois des logements. Donc, cette idée de la ville dortoir, qui est une idée des années 50, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe quasiment plus, puisque les centres-villes qui avaient effectivement une concentration d'activités les ont perdues alors en vagues successives. Je pense qu'au 19e, il y a déjà eu tout ce qui était bruyant et mécanique est sorti de la ville. Et puis, on a eu, surtout dans le dernier demi-siècle, on a eu petit à petit toutes les activités qui sont parties des centres anciens. Et les centres anciens, aujourd'hui, sont essentiellement des lieux festifs, de restaurants, de boutiques, de commerces. Je ne porte aucun jugement. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont, et sans dire que c'est bien ou mal. Donc, encore une fois, trop souvent, l'urbanisme est un urbanisme moralisateur, en stigmatisant les gens qui veulent habiter dans des maisons individuelles ou qui veulent habiter dans un entre-soi de quartier résidentiel, et pour une sorte de catéchisme moral qui serait celui d'une mixité fonctionnelle. Je ne parle pas aujourd'hui de la mixité sociale, qui est un autre sujet sujet que l'on reprendra par ailleurs. Alors pour revenir à cette ville de demain, mais qui est évidemment basée sur la ville d'aujourd'hui, mais je vous ai déjà dit, donc c'est en organisant les grands axes qui structurent la ville en la traversant, mais qui sont effectivement aussi ceux qui relient les communes de ce que l'on appelle la périphérie, ces grands axes, ce sont ceux qui, d'une manière naturelle, sont desservis par les transports, et on peut penser qu'il serait judicieux que ce qui se passe d'une manière naturelle pour les commerces puisse aussi être des implantations les plus favorables pour tous. Alors, ça se passe d'une manière spontanée. Aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, que les cliniques, pour différentes raisons d'extension du bâtiment eux-mêmes, sont coincées dans des fonciers anciens, avec des problèmes également de stationnement et d'accessibilité. Et on sait que l'accessibilité, c'est un point majeur pour la santé, la rapidité d'accès aux soins. Et donc aujourd'hui, on a cette décentralisation qui se fait donc dans les zones qui sont moins denses et sur des axes importants. Donc au lieu de trouver cela comme quelque chose de négatif, on pourrait aussi justement le développer, pas de la manière non structurée telle qu'elle se passe aujourd'hui, mais je vous l'avais dit, d'une manière qui serait beaucoup plus planifiée et agréable. Alors là, effectivement, on en vient à ce problème de la démocratie, et ça demanderait justement qu'il y ait ce débat qui soit mené, où les gens puissent se prononcer sur quelque chose qui est les choix actuels. Et ça, c'est fondamental, puisque ça va distribuer les lieux de commerce, ça va structurer les lieux de travail, mais on pourrait penser aussi que aujourd'hui, par exemple, le théâtre qui a été construit à la place du conservatoire, où on a démoli et on a coincé un théâtre dans Toulouse, ce qui est le cas dans beaucoup de villes, où par une sorte d'habitude, on reconstruit, soi-disant, la ville sur la ville. En fait, non, la ville doit être construite comme elle s'est construite au cours des âges, non pas en démolissant des bâtiments souvent de qualité, ce qui a été le cas pour ce bâtiment. On l'a démoli, il ne reste qu'une porte d'un très beau bâtiment du 19e, et remplacé par une architecture, bon, je ne porterai pas de jugement. Et donc, ce qui me paraît important, c'est justement d'urbaniser, et ça, on va contre justement la tendance aujourd'hui du préservation du foncier, attendu que c'est pas ce qui manque, et on n'a pas besoin aussi de gaspiller le foncier, justement en l'organisant d'une manière beaucoup plus rationnelle, ce qui n'est pas le cas de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Donc, si on avait justement des décisions qui seraient beaucoup plus collectives, on éviterait les rivalités entre communes et on aurait des interfaces qui pourraient être justement d'intercommunalité sans changer les responsabilités communales, et on pourrait développer d'une manière architecturale de qualité avec environnemental, c'est un mot à la mode, où on pourrait avoir justement des espaces verts accessibles à tous, des allées plantées, des transports en commun beaucoup plus faciles, et on aurait donc les villages existants avec du résidentiel qui serait branché sur ces grandes voies qui seraient les supports des activités. Donc, ce que je prône, c'est effectivement l'inverse de ce qui est aujourd'hui proposé, c'est de dissocier le résidentiel avec ce qu'on pourrait appeler le fonctionnel, terme vague, mais qui parle des équipements qui soient à la fois les lieux de l'administration, les lieux du pouvoir, mais aussi la sécurité, les commissariats, le commerce, n'en parlons pas, mais les lieux de la culture, les lieux du sport. En fait, c'est là où justement les gens pourraient se rencontrer et avoir une vie collective beaucoup plus intense que sur des mixités d'habitats qui sont illusoires et qui en fait sont très difficiles à planifier et à faire accepter aux populations. Voilà, c'est un sujet qui me paraît être fondamental et sur lequel on pourra revenir. Voilà, donc à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.